makes me feel good or nowhere. I know.
18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi 27 avril et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Retrouvez en deuxième partie d'émission l'association AE2D, Agir pour un environnement et un développement durable. Jacques Perrenne et Cyril Legge seront là pour nous en parler, pour nous parler de leur action. Et comme tous les soirs, vous pourrez découvrir un épisode d'une collection réalisée par la CoreLab. Cette semaine, on découvre le littoral autrement. À travers une initiative, on abordera autrement la question du littoral en Bretagne. Et cette semaine, le littoral autrement vous emmène à Saint-Malo pour découvrir le site archéologique. Mais tout de suite, on accueille ce soir dans nos locaux le groupe La Chance et on discute avec eux tout de suite après un de leurs morceaux en live.
Qui m'extorque de mes respis métriques. Lorsque les nuits sont trop longues, que les démons sont trop forts, le goût amer sur le bout de la langue se transforme en or que l'on mord. Si tu savais combien de fois je fais des tours dans ma chambre à penser comment c'est là, mi monde ou demain sans mon ombre, détourner le regard. Pourquoi on finit tous dans le même état, des tonnes de sourires éteints pour ne pas souffrir en étant vrai. L'art de passer pour ce que l'on n'est pas, impatient d'une route courant sale épave. Viens pas me parler de mojo, j'ai même pas ma place avec moi. Venise pour les photos, j'essaie les traces en mémoire. Viens pas me parler de mojo, j'ai même pas ma place avec moi. Venise pour les photos, j'essaie les traces en mémoire. Instant, tanné, d'instance, stonné. J'entends plus la cour régner, déjà ouais qu'en cours. René, as de pique, touché dans le cœur. Ouais, archétype, tu prends leur célèbre avant l'heure. Je me crache toujours sur les mêmes filles, dans les mêmes ports. Je me cache à peine de ces lubies, c'est pas la flamme. Pas l'air aimant, c'est où Younid encore béant. Pas Neruda à faire semblant d'écrire des choses que nul n'entend. Poèmes sacrés coulent dans mes veines, même mes fantômes abritent le spleen d'un siècle passé à ciel fermé. Viens pas me parler de mojo, j'ai même pas ma place avec moi. Venise pour les photos, j'essaie les traces en mémoire. Viens pas me parler de mojo, j'ai même pas ma place avec moi. Venise pour les photos, j'essaie les traces en mémoire. Viens pas me parler de mojo, j'ai même pas ma place avec moi. Venise pour les photos, j'essaie les traces en mémoire. Viens pas me parler de mojo, j'ai même pas ma place avec moi. Venise pour les photos, j'essaie les traces en mémoire.
Et Et c'était Vagabonde du groupe La Chance. Je vais les laisser s'installer tranquillement parce qu'on a avec nous ce soir donc Maëlle Guégo, Gueltaz Foulon, et Quentin Morvan. Donc ils s'installent tranquillement après leur premier direct, sachant que donc on aura deux autres chansons en direct à la suite de cette émission. Hop, tout le monde prend le micro, est ici. Le casque est là, un petit embouteillage de casque, mais c'est pas un souci, on règle le son et normalement c'est ok, c'est tout bon. Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien. Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu, mais il y a beaucoup d'infos, donc surtout vous me reprenez si je me suis trompée dans mes infos. Alors, Gueltaz alias Toots. C'est ça. Donc on a pu te découvrir en tant que DJ dans le groupe Tech Mao.
Tout à fait.
Super. Maëlle, toi, c'est au sein du Perrine Quintet qu'on a pu t'entendre à la guitare.
Oui.
Et puis toi, Quentin, alors apparemment on t'appelle Gilles aussi.
Ouais, exactement. Enfin, du coup, ça a changé parce qu'au début, je m'appelais Gilles, mais du coup, j'assume plus trop. Donc j'arrête maintenant de m'appeler Gilles. Je m'appelle à nouveau Quentin. Mais j'assume aussi. Moyennement aussi Quentin.
D'accord.
C'est son double maléfique.
Ah d'accord, je comprends mieux. Et du coup, donc, on a pu te découvrir en tant que chanteur et guitariste dans le groupe Oggy.
Exactement.
Alors, du coup, tous les trois, vous avez donc des sacrées actualités, sachant qu'on a pu entendre tous les noms des groupes sur les ondes de Radio U. Mais du coup, avec toutes ces activités, comment est-ce qu'est né le groupe La Chance?
Alors, du coup, le groupe La Chance est né pendant le premier confinement. On était, Quentin et moi, en colocation. Un peu perdu à la campagne et on s'est mis à, en fait on avait commencé à faire un son ensemble, je pense que ça devait être vers janvier ou février avant, et on avait trouvé que ça avait bien marché, et en fait ben là on s'était retrouvé en colocation et donc on a commencé à composer et lui à écrire de son côté des morceaux ensemble quoi, et ça en fait on a fait une bonne dizaine comme ça de maquettes où en fait on s'amusait juste hein. On s'amuse toujours, il n'y a pas de souci. Mais...
Ah, moi, plus trop. Oui. Mais du coup, après, il y a Guégo qui nous a rejoint l'été dernier, du coup. Et voilà, on a étoffé un peu le set avec lui.
Ok. Et j'ai vu que vous étiez tous les trois britophones, donc vous parliez tous les trois breton couramment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a rapproché, qui fait quelque chose dans votre processus de création?
Dans la création, je pense pas. Par contre, je pense que ce qui nous a rapprochés, c'est pas forcément la langue bretonne, mais on va dire plutôt le cursus scolaire qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a tous les trois été à Divonne, et donc du coup, on se connaît depuis des années. Et même si on n'est pas tous de la même génération, on se connaît quand même déjà bien. Et donc du coup, ça nous a aidés
à aller les uns vers les autres.
Voilà, c'est ça.
Juste un peu.
C'était facile de demander quoi. Je pense que ça a été facile pour toi Quentin de me demander d'intégrer le groupe parce que tu me connaissais déjà.
Pas vraiment parce que t'es vraiment un ours. Du coup, c'est compliqué. Mais oui, en soi, c'était plus facile. Ouais.
Et donc voilà.
Et du coup, donc on a entendu Vagabonde. Comment elle s'est créée cette chanson?
Bah, justement, c'est le premier morceau qu'on a fait moi et toutes. Et en fait, c'était vraiment un test. C'était un peu une expérience. C'était pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et moi, j'avais envie d'écrire d'une autre manière. En fait, avec Oggy, j'écrivais d'une certaine manière, et je me suis dit que La Chance était une manière de d'écrire différemment. Et donc voilà, ça m'a donné un peu la possibilité d'écrire autre chose de manière différente, quelque chose de un peu plus. Même s'il y a plein de parties un peu obscures dans la chanson, tout ça, c'est quelque chose de plus direct, je vais dire.
Ouais. Moi, pareil, en fait, dans la composition du morceau, c'était une manière aussi de faire quelque chose un peu différent. J'aime bien les sons qui sont planants, qui sont hyper aérés, bah, comme Vagabonde l'est, en fait. Et c'était un peu une manière de mêler ces deux trucs aussi, bah, du coup, de nouveautés pour nous, un peu. Et puis, ouais, ça a bien marché. On en est content en tout cas de ce morceau.
Et alors, donc pour les auditeurs et auditrices, ça va peut-être les titiller un peu du coup, vu que je vais parler du clip. Et notamment du moment où on vous voit faire du foot sur un terrain de tennis. Alors pourquoi pas, hein, mais surtout pourquoi?
Il y a un making-of d'ailleurs là-dessus, parce qu'on a fait plusieurs images autour de ça. Et en fait, on se rend compte qu'on est vraiment très très nul en foot. Pourquoi? Ben parce que je sais pas. Moi, je trouve que dans le foot, il y a quelque chose d'assez esthétique. Et c'est vraiment. En fait, c'est une pratique qui me plaît aussi beaucoup. Enfin, qui nous plaît aux trois, en fait. Et du coup, on s'est dit bon ben un match de foot. C'est pas mal dans un clip.
Et en fait, on n'avait pas vraiment de City à proximité.
Ouais, c'est ça.
On a pris le premier terrain qu'on avait.
Qui était un terrain de tennis.
Un terrain de tennis, ouais.
Mais ça se fait, hein. Ça se fait.
Bah, voilà. Ça rend bien.
Ça fait des nouvelles règles en même temps.
Ça rend bien, et du coup, c'est vrai que ça. On se dit, d'accord, pourquoi pas.
Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui dit. C'est quoi? C'est un match de foot sur un terrain de tennis avec une balle jaune. Est-ce qu'il y a un lien, tu vois? Et je me suis dit, ah, c'est pas bête, il y en a qui ont vraiment l'œil, quoi.
Et en mars dernier, donc vous avez été accueillis par l'Alysée, qui est un centre culturel de Guipava, pour une semaine en résidence. Comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est très bien passé. On a fait l'Alysée, on a fait aussi l'Arvorique en décembre. Pareil, une semaine. Et non, bah, ça s'est très bien passé. En fait, on a travaillé surtout, comme c'est un groupe assez jeune qui a pas fait beaucoup de live. En fait, notre premier live, c'était cet après-midi. Et en fait, du coup, on a surtout travaillé ça. On a beaucoup travaillé aussi du studio, créer des sons, créer un répertoire. Mais en résidence, on a surtout travaillé la scène et le live. Et ça s'est très bien passé.
Et dans le live, justement, il y a une réelle envie aussi de démarquer des versions qu'on va pouvoir sortir sur internet ou en physique, c'est de vraiment faire d'apporter un côté organique au live, que chacun ait sa place en tant qu'instrumentiste, et enfin je compte la voix aussi dedans.
Et
et puis du coup le fait que Gégo et moi on se mette à faire des chœurs aussi, le but c'est vraiment qu'il y ait cet aspect organique vraiment.
OK. Parce que effectivement, c'est ce que je me disais. Vous êtes pas non plus des jeunes artistes. Vous avez l'habitude quand même d'être dans des groupes et tout ça. Comment on s'organise quand justement on a eu l'habitude de travailler dans un groupe avec des personnes qu'on connaissait et que du coup on recrée un groupe, on recrée des habitudes de travail.
C'est compliqué. En fait, c'est comme quand on fait un boulot normal et qu'on arrive dans une nouvelle entreprise et du coup, c'est plein de nouveaux collègues. On fait genre, ah oui, d'accord. Donc, ils fonctionnent pas du tout de la même manière. C'est pas les mêmes horaires. D'accord. Il y en a un qui arrive en retard. C'est celui-là. Ok.
C'est lequel qui arrive en retard ici?
Je dirais pas. Je tairai les noms. Donc voilà. Ouais. C'est vraiment un nouvel équilibre, en fait, à trouver. Mais c'est comme partout. En fait, c'est humain aussi avant tout. Donc, c'est comment retrouver un équilibre avec des nouvelles personnes.
Ouais. Et surtout dans cette période où justement on n'a pas de concert, donc c'est dur de se projeter, mais je trouve que tous les trois, on n'a pas peur justement de se projeter quand même et de trouver un bon équilibre entre nous. Enfin, voilà.
Ça m'amène à la prochaine question qui est justement, j'imagine qu'un de vos objectifs c'est la scène. Comment est-ce que vous l'envisagez au vu du contexte actuel? Est-ce que vous réussissez à l'envisager?
On l'envisage, oui, mais vraiment, pour quand, de toute façon, personne ne sait, hein, mais on espère au plus vite, comme tout le monde. Après, ouais, on fait en sorte d'être prêt. C'est surtout ça. On fait en sorte d'être prêt le plus tôt possible pour voilà.
Ouais, on a quelques propositions pour le mois de juillet, donc on espère que ça tienne, on espère que ça se fera, on verra quoi. En fait, on espère en fait pour l'instant.
Et c'est surtout que je pense qu'on va s'adapter aussi un peu n'importe quoi. Enfin, finalement, je pense que ça va plus être vraiment comme avant non plus les concerts. Je pense qu'il faudra un peu se faire à l'idée. Et puis, quelle forme ça va prendre, on sait pas. Mais du coup, on est un peu sur le qui-vive pour se dire, on va s'adapter. Faut jouer dans, je sais pas, une décharge, on va jouer dans une décharge, mais on va s'adapter à ça, quoi.
Ce qui peut être intéressant, du coup, pour vous, vu que, en tant que groupe La Chance, vous avez jamais eu la chance, blague, de l'opportunité, donc, de faire un concert en tant que La Chance, du coup, vous êtes pas habitué, en fait, à ce qu'on avait avant en tant que nouveau groupe, donc ça veut dire que, c'est ça, c'est que toutes les opportunités sont bonnes à prendre.
C'est ça, tout à fait.
On va repartir sur une base différente. C'est ça. Après, on va voir ce qu'on en fait de cette base et comment ça se passe. Et ça va sans doute changer pas mal de choses dans notre façon d'être aussi sur scène. Parce que, enfin, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Mais de toute façon, on saura s'adapter, à mon avis. On s'adapte assez rapidement, enfin ça se voit, les gens s'adaptent à cette situation quand même assez... Pas tout le monde, je dis pas tout le monde, mais la majorité des gens arrivent à s'adapter aux modifications que ça apporte dans la vie de tous les jours, quoi.
Je vais vous proposer de faire une petite pause dans cette interview pour repartir nous jouer deux morceaux en live. Et puis, donc je vous laisse vous installer, je vais meubler.
Ça marche, et bien, merci beaucoup.
Et donc de toute façon, le groupe La Chance qui peut être suivi sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Et puis je les laisse s'installer et je vous laisse apprécier et écouter.
Acteur d'une série dont j'ai perdu le sens. J'suis comme Truman mais sans l'innocence. Produit précaire d'un système que l'on nomme existence. Juste le pion d'un Marvel sans moyen. Nous sommes dans une histoire qui mène à rien. Traqué sans célébrité, cramer la célérité, balancer sécurité. Retour aux années noires, victoire des grands discours. C'est fou comme l'encéphale, effacer sales images. M'affalerai jamais pour ces salopes. Amnésie chronique depuis que j'ai l'âge de compter. Mon père m'a dit pardonne-les de leurs péchés. Mais jamais eu la foi en rien ni personne, ouais. Hérésie conique, je me saoule des raisins de la colère. Trop sombre pour en devenir solaire. À défaut, mélange au Prozac. Je déprime plus de ces scénarios sans fond puisqu'ils l'ont déjà touché. Je réprime juste les sorties de mon sang-froid. C'est la mascarade, une poker face. Tu me parles de mascarade, je te ferai bouffer le macadam. Mais c'est le précieux, mais le chaos tellement de mots dans la tête, j'sais plus comment faire. Alors je sors pour me la mettre, la vie est plus douce à l'envers. Tellement de mots dans la tête, j'sais plus comment faire. Alors je sors pour me la mettre, la vie est plus douce à l'envers. Migraine, 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 migraine. Migraine, 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 migraine. Tellement de mots dans la tête, mais ça ira demain ou jamais. Après d'hiver et ma conscience en fuite, j'oublierai même l'hiver qui m'habite. Tellement plus tranquille de noyer son ego blessé dans des litres de sky en soirée. J'invente des anniversaires et des freins en tant que j'invite juste pour la figuration. Trop de films qui me parlent d'une humanité que je connais pas. La seule que j'ai croisée traînait la peste et le choléra. Un film reste l'espoir. Alors j'éteins l'écran qui m'a créé. Crise mon lointain ou crise intérieure. Été indien ou bien chrysanthème. La fin reste la même. La fin reste la même, la fin reste la même. Tellement de mots dans la tête, je sais plus comment faire. Alors je sors pour me la mettre, la vie est plus douce à l'envers. Tellement de mots dans la tête, je sais plus comment faire. Alors je sors pour me la mettre, la vie est plus douce à l'envers. Migraine, 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 migraine. 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 Migraine, 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 migraine.
saisons. Qu'ici les vies sont laides, qu'importe s'ils ont raison. Glorieuse époque où même le sommeil se faisait la malle. Dans les contours des mélodrames, nuages opaques, pièges de concorde à la dérive. Des grisements express à force de déguisements épais. J'ai l'asphalte pour un mi-sur, mais prends l'air de côtoyer l'azur. Comme seule mère, et d'un coup tu m'as dit de sans voir comment laisser la vie. Alors, Candide, j'ai baissé les armes et dedans ont coulé les lames. Ara, qui riait sur un fil, entraille, taré pour une fille. Je deviens taré pour un oui. Aura, lové dans son nom même. Plaisir de synthèse ou l'ivresse des grands sauts que l'on garde bien pour soi. Les bras d'inconnus effaceront-ils un jour ton image sur le bitume, ton souvenir sur les murs, blessures indélébiles. Y'a trop de toi sur le bitume. Comme un trottoir que l'on écume, un peu trop de fois, ça l'amertume, ouais. Y'a trop de toi sur le bitume, comme un trottoir que l'on écume, un peu trop de fois.
Et c'était donc Migraine, suivi de 6h18 par le groupe La Chance, qu'on a toujours en direct du 101.1 et en direct de nos locaux. Je les laisse reprendre leur souffle, se réinstaller tranquillement. On est toujours avec Maëlle, Gualtaz et Quentin. Donc on a entendu vos trois sons, Migraine, Vagabonde et 6h18. Ça s'entend un petit peu moins effectivement en direct, mais c'est vrai qu'en écoutant les sons qui sont dispo soit sur Spotify, soit sur YouTube, on entend des sons qui sont vraiment assez différents, même si Migraine et 6h18, j'ai l'impression qu'on peut les assembler un petit peu, mais je trouve que, enfin, en tout cas, ça me donne l'impression, vous allez me dire un petit peu, que ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été réalisé dans le même but et pas dans la même ambiance.
Ouais, bien vu. Je pense qu'il y a eu pas mal de phases de test aussi. On a essayé plein de choses sur différents morceaux pour arriver, en fait, petit à petit à dégager une identité dans tout ce qu'on fait. Et donc ça, c'était un peu les deux premiers morceaux qu'on a sortis, donc Migraine et Vagabonde, c'était un peu des crash tests. C'était pour tester des morceaux. Et puis là, on a enregistré récemment pour un EP. Et en fait, il y a quelque chose qui s'en dégage. Alors certainement, il y aura plein de différences entre les morceaux, ce qui est normal et c'est ce qui fait vivre aussi finalement l'EP. Mais on arrive à dégager quelque chose qui fera office de fil conducteur dans tout l'EP, quoi.
Et c'est vrai que pour le coup, j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à aller écouter la différence, parce que pour les avoir entendus, les sons, c'est vrai qu'il y a une réelle différence entre ce qui est enregistré et ce qui sort en live. Comment vous faites pour choisir un petit peu ce qui va être modifié, ce qui va être ce que vous ajoutez ou ce que vous enlevez? Ça se fait au feeling?
Ouais, au feeling, je sais pas. Non, bah c'est le rajout de la guitare, parce que par exemple dans les sons Migraine et Vagabonde, il y a pas beaucoup de guitare. Enfin, dans Migraine par exemple, il y a sur les refrains, mais dans les versions studio, il y a pas forcément de guitare. Donc là, c'est en fait, on rajoute un instrument live, deux en fait, parce qu'il y a le clavier aussi. Donc du coup, on est obligé d'enlever des choses de la version studio, ouais.
Ouais, je pense que ça déjà c'est un élément qui change pas mal de choses, c'est que Gégo prend plus de place en live.
Prend des fois le rôle de la mélodie qui est jouée par un synthé à la base sur les instrus qui ont été faits en amont. Donc du coup on s'adapte à ça en fait, on essaie de d'inclure la guitare et que ça devienne un élément assez assez principal, pas l'élément principal mais qu'il se fonde avec les autres éléments.
Oui, là, voilà, parce que l'élément principal, ça reste le texte et la voix. Que ce soit en live ou en studio, c'est autour de ça qu'on construit les morceaux.
C'est tout autour de ça.
Tu parlais d'un EP, la question, forcément, tu te doutes bien que je vais vous demander, c'est est-ce qu'il y a une date?
Est-ce qu'il y a une date?
Ça reste trop tôt pour le dire, la date, je pense.
Ça pour le dire, un footballeur qui parle, quoi. Ça reste un peu trop tôt pour le dire. Je pense que les trois points, c'est déjà bien. Non, normalement, ça serait pour l'automne. Mais voilà, on n'a pas encore de date précise. Mais Radio U sera dans les premiers à recevoir notre pays.
Ah, ça fait plaisir. Et est-ce que vous avez d'autres projets en préparation? Alors, j'imagine bien qu'un EP, c'est du boulot, mais est-ce qu'il y a d'autres clips, d'autres et à part, on espère surtout le retour de la scène pendant l'été.
Ben, on travaille beaucoup sur notre identité visuelle globalement, et du coup, oui, il y aura d'autres clips, ça c'est sûr, notamment sur des morceaux qui seront dans l'EP. Deux morceaux. Ouais, c'est ça. En fait, on va juste continuer à travailler live beaucoup, le faire à côté de tout ce qui est tout le processus de finalisation de l'EP, finalement. Et je pense que ça va être globalement ça, notre activité pour les prochains mois. Après, on va essayer, je pense, de recommencer à créer, parce que là, on s'est beaucoup concentré sur l'EP, mais finalement, il faut aussi créer. Et puis, on a envie de créer, surtout. Du coup, je pense qu'il va falloir... Non, non, il n'a pas envie.
Ah, il y a déjà des désaccords.
Non, mais oui, ouais. Là, on s'est beaucoup concentré là-dessus, mais on a un peu laissé de côté la création pure. Et je pense que c'est vers là qu'on va s'axer aussi dans les prochains mois, quand le projet d'EP sera un peu plus abouti et qu'on... Voilà, je pense.
Mais en tout cas, on espère pour vous et puis pour nous aussi, hein, on va pas se cacher, qu'on aura le retour des concerts et qu'on pourra vous écouter pendant l'été. Maël, Gueltaz et Quentin, merci d'être venus ce soir.
Merci à toi.
Donc
merci.
Je rappelle que votre groupe La Chance est présent sur les réseaux et qu'on peut tout écouter sur Spotify, sur YouTube et suivre votre info sur la page Facebook. Et nous, quant à nous, on revient tout de suite avec l'association AE2D après Sorcière d'Océ Aline.
Du machin.
Et vous écoutez toujours C'est vous qui le dites sur le 101.fm à Brest. C'était la Brestoise, justement, Océaline et son titre Sorcière. Deux invités m'ont rejoint dans le studio, Jacques Perrenne et Cyril Legge. Bonsoir.
Bonsoir.
vous êtes tous les deux membres de l'association AE2D, Agir pour un environnement et un développement durable. Est-ce que vous pouvez nous représenter l'association pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas ?
Oui, bonsoir. C'est donc
alors attendez, je vais juste... est-ce que vous pouvez rapprocher le micro ?
D'accord.
Voilà, parfait.
Oui, donc c'est une association qui a plus de 20 ans, donc qui a été... qui a été monté par un groupe d'adhérents et donc qui voulait faire de l'environnement et donc cette association a été créée dans la suite de la ligne du sommet de la Terre de Rio et donc la déclaration de Rio qui détermine les principes qui devront guider les décisions des États dans le cadre d'une approche intégrée des politiques de développement et d'environnement. Bon, tout un programme, voilà. Donc, elle a été fondée donc, entre les adhérents au présent statut que l'on a édité à ce moment-là, enfin qu'ils ont édité, vu que nous ne faisons pas partie des premiers qui ont des membres fondateurs de cette association. Et donc... cette association a été créée en faveur de la protection et la préservation de la nature contre les pollutions, contre des nuisances, les pollutions air, eau, mer et sol. Et à partir de faits qui sont constitués, hein, qui constituent des infractions aux différentes réglementations. Donc, elle se porte aussi en justice. Hein, voilà. On se porte partie civile aussi. Voilà.
Effectivement, on va en parler, j'allais dire, après, mais non, pour en parler tout de suite, parce qu'effectivement, vous avez, par exemple, porté plainte en 2018 contre les dépôts sauvages d'extincteurs à Guipava et à Plougastel. Et je voulais vous demander, plus de 2 ans après, où est-ce que ça en est, justement ?
C'est à l'état zéro. Les extincteurs ont disparu et nous n'avons aucune preuve à apporter pour prouver cette pollution. Lorsque donc on a fait état à l'avocat qui nous défend, il nous a demandé si on avait les preuves et puis bon bah, voilà, on n'a pas de preuves puisque donc il y avait un organisme qui s'était chargé de les faire disparaître. Pas de preuves, donc l'action judiciaire s'est arrêtée, le procureur donc, a arrêté l'action, a donné un non-lieu à ce dépôt de plainte. Voilà. Malheureusement, ça se passe comme ça, donc ça nous apprendra à garder des preuves pour pouvoir continuer l'action en justice. Voilà. Mais bon, c'est un état de fait. Bon, les gens font encore n'importe quoi à notre époque, alors que on devrait quand même faire très 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 attention.
En parlant de faire attention, vous avez communiqué sur les pollutions au lisier de porcs dans les rivières et notamment à Morlaix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cet événement-là il est problématique pour l'environnement ?
Alors, bon, les fuites de lisier issues des exploitations agricoles, bon, ça date malheureusement de l'industrialisation de notre agriculture. Voilà, donc on a développé des grands contextes agricoles qui stockent des matières qui sont ensuite déposées pour amender les terres et bon ces stockages se font parfois dans des conditions avec du matériel qui à longueur de temps se dégrade, ne seront pas contrôlés et puis inévitablement lorsqu'il y a des des accidents, mais est-ce que peut-on appeler ça encore des accidents?
Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de journaux et tout ça ont appelé ça des accidents, justement.
Voilà, ce ne sont plus des accidents, ce sont des actes, à la limite, ça devient des actes malveillants. Et le résultat, ce sont des kilomètres de rivières, de ruisseaux qui sont pollués avec un impact terrible sur la faune. À E2D, nous ne sommes pas spécialisés pour la protection des cours d'eau. Il y a une association qui est Eau et Rivières qui, eux, travaillent dans ce sens-là. Et lorsqu'il y a des pollutions, s'il faut aller sur le terrain juridique, nous ne sommes pas les premiers à y aller. Ce sont surtout les associations de pêcheurs qui lancent des procédures. Et s'ils le jugent utile, ils font appel aux associations de protection de l'environnement pour les appuyer dans les dépôts de plaintes pour se porter partie civile. C'est arrivé il y a quelques années sur une exploitation agricole, pour la troisième fois, ils avaient pollué. Bon, voilà, la PPMA a dit, il y en a marre, on porte vraiment le coup, et ils ont été quand même bien sanctionnés. Est-ce que ça suffit? On ne sait pas.
Oui, c'est quand même un sujet qui revient tout le temps. Hein. C'est à peu près une pollution par mois sur la région. Donc ça fait beaucoup, et c'est des pollutions qui sont vraiment néfastes pour l'environnement. Ça tue littéralement, ça asphyxie en fait tout le milieu aquatique. Donc ça tue tous les poissons, toutes les espèces d'animaux qui y vivent sont décimées littéralement sur une portion de rivière. Donc c'est vraiment, ça a un impact, ça met au minimum une décennie, 15 ans à se reconstituer. Certains poissons vivent plus que ça, donc c'est encore plus long que ça, en fait.
Puis j'imagine que, du coup, ça met aussi en péril l'espèce, enfin certaines espèces, justement.
Pas forcément, non. Mais c'est surtout des cours d'eau qui sont vidés, en fait, de toute espèce. Donc, à mesure que les pollutions se répètent, ça dégrade complètement l'environnement et tué, quoi, tout simplement. Certaines espèces peuvent être quand même impactées. Hein, et j'ai entendu parler du saumon qui, dans certaines rivières, ça pose des problèmes. Voilà. Mais autrement, c'est pas forcément un problème d'extinction d'espèces, c'est plutôt un problème d'extinction de la nature en général. Hein, voilà.
Et donc l'extinction de la nature, on en entend pas mal parler depuis de nombreuses années maintenant, avec un projet qu'on connaît, nous les Brestois et les Brestoises, avec le projet des travaux de la voie nord de Lambézélec, qui s'en va et qui revient, et donc qui passerait par la vallée du Restic. Le but serait notamment donc de sécuriser et de désengorger le boulevard de l'Europe. Ça, c'est un projet contre lequel vous vous battez, justement, contre lequel vous êtes. Et est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, et vous en parlerez sûrement un petit peu mieux que moi.
Je vais en parler très rapidement, je vais laisser la parole à Jacques, hein, qui s'occupe plus spécifiquement d'une association qui s'appelle le Comité de Défense de la Vallée du Restic, donc qui fait partie d'AE2D, mais qui est quand même une petite partie qui travaille spécifiquement sur ce dossier. Moi, de mon point de vue, je pense que ça a tout à fait sa place dans AE2D, qui nous occupons du développement durable, parce que ça a trait, en fait, c'est un projet qui veut en fait augmenter encore la place de la voiture, augmenter les voies pour permettre aux voitures de mieux circuler. Donc c'est encore plus de facilité pour les voitures. Je pense que c'est un mauvais projet politique. En plus, ça met directement en danger la vallée du Restic. Je laisse Jacques en parler.
Oui, je peux en parler du fait que je représente le collectif pour la sauvegarde de la vallée du Restic, un collectif que nous avons créé en 2009 suite à la première concertation qui avait eu lieu donc pour le contournement qu'avait lancé Brest Métropole Océane à l'époque, et qui prévoyait donc un, un passage par la vallée du Rastic. C'était donc notre constitution en collectif se situait après la concertation. Donc nous n'avions pas réussi donc à faire en sorte, enfin à défendre la vallée du Rastic, ce qui fait que Brest Métropole avait décidé de passer par la vallée du Rastic. Donc il ne restait plus qu'une solution pour attaquer ce projet, c'est à la déclaration, au décret de déclaration d'utilité publique du préfet, de pouvoir l'attaquer, ce que nous avons fait. Et donc en 2018, nous avons gagné au tribunal administratif de Rennes, et ensuite en 2018 ça a été confirmé par la cour d'appel de Nantes. Brest Métropole est monté jusqu'au Conseil d'État, ils se sont fait retoquer. Donc première manche, nous l'avons gagné, mais nous l'avons gagné sur la forme. Brest Métropole entre temps a relancé la concertation, donc fin 2018. Cette concertation a comporté des ateliers de la concertation auxquels nous avons participé sur demande express de Brest Métropole et du cabinet conseil qui menait la concertation. Ce n'était pas pour approuver la concertation, mais c'est pour avoir quand même un œil sur ces ateliers. Le fait est que, il y a eu les ateliers de la concertation, ensuite il y a eu la concertation a été relancée, il y a eu les restrictions sanitaires. Ça a tout retardé, à savoir que ça a été un point mort pendant quelques temps. Et là, depuis le 12 avril, donc Brest Métropole relance la concertation jusqu'au début juillet, avec donc le résultat des ateliers de la concertation, donc six propositions. Voilà, donc nous sommes toujours formés en collectif, le collectif existe toujours, à savoir AEDD, Agir pour un environnement et un développement durable, aux rivières de Bretagne, Bretagne vivante, Costour, Poumon vert en Finistère, Brest à pied et à vélo, des partis politiques qui nous soutiennent aussi. Donc on est quand même en ordre de bataille pour cette fin de concertation. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est que, enfin, pour nous, aucun des schémas qui sont proposés ne convient. Puisque dans tous les cas de figure, et c'est mathématique, toute voie de contournement apporte un surplus de circulation. Et ce surplus de circulation nuira systématiquement à toute la frange nord de Brest qui sera impactée par une circulation qui vient d'ailleurs. C'est inacceptable. Donc il faut canaliser cette circulation, la diluer, et le moyen de le faire, c'est d'utiliser les voies existantes en les sécurisant, et surtout éviter une catastrophe naturelle qui serait le passage par la vallée du Rastic. Nous appelons ça une catastrophe naturelle, une catastrophe obligée.
Une catastrophe humaine, en fait.
Humaine, voilà.
Parce que vous parliez, enfin, vous disiez que vous étiez plusieurs collectifs, justement, j'imagine que pour un projet de cette envergure qui date, parce que voilà, vous l'avez dit, ça fait un bon moment maintenant qu'on en entend parler, j'imagine que c'est important d'être plusieurs collectifs, d'être à plusieurs pour vous relayer,
Plusieurs associations. Ouais. Dans un même collectif, on est prêt à. Bon, il faut gagner, il faut que l'on gagne cette manche, surtout que le passage de cette voie ne se fasse pas par la vallée du Rastic, parce que la valeur écologique, la valeur environnementale de la vallée a été prouvée, on l'a déjà prouvée, et elle a été surtout prouvée lors de l'étude d'impact qui a été faite lors du premier dossier. D'ailleurs, nous, c'est certaines choses que l'on a appris, qu'on ne connaissait pas, parce que cette vallée du Rastic, c'est, un, c'est un lieu de respiration, c'est un pont ouvert, un lieu où les gens peuvent se reposer à proximité. Ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture pour aller chercher la vraie nature après leur journée de boulot. Si les gens veulent se reposer, ils viennent là, ils vont faire un tour dans la vallée du Racic. On les invite. Voilà. Et surtout en ce moment, avec les mesures de confinement, la vallée n'a jamais été autant fréquentée que lors du premier confinement. Et ça, elle l'est toujours d'ailleurs. Voilà.
Si on parle un petit peu politique, parce que c'est un projet politique, Europe Écologie Les Verts donc a fusionné lors des dernières municipales avec la liste de François Cuyandre. Est-ce que vous êtes en contact avec eux et est-ce que vous comptez sur eux?
Oui, tout à fait. Nous sommes en contact avec les Verts brestois. Lors des dernières municipales, ils se sont dissociés de l'équipe de monsieur Cuyandre. Et entre-temps, entre les deux tours, ils se sont rabidochés avec des conditions, dont une des principales conditions était donc la sauvegarde de la vallée du Rastic, donc de trouver des alternatives, donc au passage de favoriser des alternatives au passage par la vallée du Rastic. Ça, bien sûr, dès qu'on a vu ça apparaître sur leur prospectif de campagne, nous avons interrogé les Verts et ils sont bien accrochés à ces résolutions. J'espère qu'ils vont s'y tenir, qu'on ne se permettra pas de dire, mais ce ne sont que des paroles de politique. J'espère même qu'ils sont prêts à mettre leur poste en jeu si ce n'était pas respecté. Je m'avance peut-être.
Pour l'instant, la parole est aux citoyens. Hein. C'est une concertation. D'ailleurs, lançons l'appel ici. Hein. Les gens doivent participer aux concertations. C'est à ça que ça sert. C'est une procédure démocratique à laquelle personne ne participe aujourd'hui. Hein. Très, très peu de gens. On a une dizaine de dépôts de personnes, de citoyens qui participent dans les concertations. C'est vraiment de moins en moins. Les gens sont moins formés, se sentent moins concernés, se sentent moins habilités à le faire. Et c'est dommage parce que ça laisse vraiment la main aux politiques pour mener des politiques qui sont franchement néfastes. Hein. Voilà. La concertation sert à ça. Si une majorité de gens se déclarent opposés à ce genre de projet, le projet aura moins de chances de se faire. Voilà, simplement.
Et du coup, justement, pour expliquer à nos auditeurs et auditrices comment fonctionne la concertation, comment est-ce qu'on communique son refus, ou en tout cas, comment est-ce qu'on exprime son avis par rapport à la concertation?
Alors, actuellement, depuis le 12 avril jusqu'au début juillet, donc la concertation est ouverte. Il y a des dossiers qui sont déposés, des dossiers et des expositions qui se font en mairie de quartier de Lambézélec, à la mairie de Gouesnou, vu que la commune de Gouesnou est concernée. J'imagine aussi à l'hôtel de Brest Métropole. Et puis, il y a le site de Brest Métropole, donc je participe, brest.fr.
Donc ça peut se faire en ligne. Il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas le faire.
Il faut savoir qu'en ligne, c'est pas évident parce qu'il faut toujours ouvrir un compte. Bon, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Mais nous, notre rôle, c'est de solliciter les gens pour qu'ils aillent déposer le plus possible sur ce dossier. Je sais que la période n'est pas favorable. Est-ce qu'il faut le reprocher donc aux porteurs du projet, puisque on est quand même en période de confinement, il va y avoir la période des élections, tout ça, ça n'incite pas les gens à venir s'intéresser à une concertation, mais on est là pour les aiguillonner.
Mais d'ailleurs, on peut fournir une aide, un mode d'emploi ou des éléments de réponse sur le site d'AE2D. On va les mettre prochainement. C'est en train de se travailler. Le texte est en train d'être travaillé. Donc, il y aura des éléments de réponse. Les gens peuvent piocher dedans. On va détailler la procédure. et on mettra des éléments que les gens peuvent reprendre tels quels ou en les remaniant à leur sauce pour pouvoir les déposer sur le site de consultation.
Parce qu'effectivement, vous dites que la période, c'est pas la meilleure période, et en même temps, ça peut toucher aussi les personnes, parce que on l'a bien senti, quand on avait que 1 kilomètre pour sortir de chez soi, on a apprécié d'avoir la vallée du Restic à côté, oui. On a apprécié d'avoir les espaces verts de Brest, donc ça peut effectivement peut-être toucher les personnes en se disant que ça peut disparaître ça.
Tout à fait. Surtout que, malheureusement, on a un urbanisme galopant et un étalement urbain trop important sur Brest. Donc, cette vallée du Restic va être englobée dans l'urbanisme sous quelques décennies. Donc, gardons quand même cet espace où il y a la nature, il y a de l'eau, il y a des animaux, il y a des espèces protégées. Actuellement, vous allez là-bas le soir, non, pas plus le soir, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller.
Le soir avant 19h.
Avant 19h, vous entendez les oiseaux, malheureusement un avion de temps en temps. Mais enfin bon, c'est quand même un espace de, je le redis, de respiration, de calme. Voilà.
Eh bien écoutez, Jacques Perrin et Cyril Legge, merci d'être venus ce soir. Et puis on invite tous nos auditeurs et auditrices à aller voir la vallée du Restic, à se faire un avis eux-mêmes pour voir et pour protéger cet espace. Et donc l'asso AE2D est à suivre sur vos réseaux ainsi que sur votre site internet. Et je vous remercie d'être venus ce soir.
Oui, merci.
C'est bientôt la fin de la quotidienne, donc qui laissera place à la programmation musicale jusqu'à retrouver le chant de l'Alouette à 21h. Retrouvez cette émission en podcast ainsi que toutes les autres émissions de la radio sur notre site internet. Mais comme chaque soir, on se quitte avec un reportage de la Corlab. Ce soir, retrouvons à Saint-Malo, à l'Adramar, l'association pour le développement de la recherche en archéologie maritime, Anne Oyo-Berry, archéologue sous-marine. Elle évoque les autorisations nécessaires pour matérialiser le projet Biseux, site archéologique reconstitué. 5 canons de la Charmante du XVIIIe siècle en baie de Saint-Malo et une ancre de marine.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Alors on se situe au niveau de la demande en 2015 et le temps va passer très très vite pour arriver jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, pour créer ce type de projet, il y a 2 grandes autorisations à obtenir. C'est d'une part la possibilité de disposer des objets archéologiques qui sont donc la propriété de l'État. Et en cela, quand on dit propriété de l'État, c'est qu'en fait, ils appartiennent à tous et qu'ils ne peuvent pas être la propriété d'un seul. Il y a pour ça 3 termes techniques, c'est-à-dire que les biens de l'État, le propre de ces biens-là, c'est l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas être vendus, ils ne peuvent pas être loués et ils ne peuvent pas être cédés parce qu'ils doivent, et cela pour les générations à venir, rester la propriété de tous. Donc ça, c'est le cas des objets archéologiques, puisque les objets qui ont été réimplantés sur le site de Biseux, ce sont de vrais objets archéologiques. Donc 5 canons qui proviennent d'une épave de la baie de Saint-Malo, qui s'appelle la Charmante, datée du XVIIIe siècle, et une ancre de marine, XVIIIe siècle également, qui a été récupérée par un pêcheur en action de pêche. Elle est arrivée dans ses filets, donc il l'a ramenée et à terme été réimplantée à Biseux. Ces demandes-là pour les objets sont adressées au ministère de la Culture, au DRASM, département des recherches subaquatiques et sous-marines à Marseille, qui étudie, qui va aussi donner ses directives pour qu'il n'y ait pas de risque de prix par rapport à ces objets. C'est-à-dire que ces objets doivent garder toute leur intégrité, quel que soit le projet qu'on leur destine. Ce qui fait que ces objets doivent être réimplantés dans une zone où ils ne vont pas être endommagés. Et la première nécessité, c'est qu'ils soient toujours sous l'eau. puisque en fait la grande complication, ça va être s'ils découvrent, ils sèchent le temps d'une marée, ils sont à nouveau recouverts, et là ils vont très 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 vite se dégrader, et c'est surtout pas l'objectif. Pour vous donner un petit ordre d'idée, les demandes pour travailler sur le domaine public maritime dans le cadre de l'archéologie sous-marine sont réalisées au plus tard le mois de décembre de l'année précédant le chantier. C'est-à-dire que là, on fait une demande en décembre 2015, on va pouvoir agir l'année suivante, donc 2016, et milieu d'année, voire fin d'année, pour donner aux administrations le temps d'instruire les dossiers. Les autres éléments, c'est ce qui concerne le terrain. C'est-à-dire que là, ces objets vont être réimplantés sur le rivage, qui s'appelle techniquement le domaine public maritime, le DPM, qui là aussi est propriété de l'État. C'est-à-dire que, encore une fois, il est à tout le monde et il ne peut pas être à une seule personne puisque tout le monde doit pouvoir en bénéficier, propriété de l'État. Ce qui fait que là aussi, il y a un certain nombre de démarches à faire et de demandes à faire, notamment à la direction des territoires et de la mer, pour dire, voilà, nous, on a un projet d'implantation d'objets archéologiques dans un cadre patrimonial, culturel, accessible à tous, gratuit. Est-ce que vous êtes d'accord si on implante nos objets dans la zone que l'on propose? Donc là, à nouveau, une étude qui est souvent soldée par une commission nautique locale, c'est-à-dire que tous les intervenants du territoire vont être sollicités pour donner leur avis dans le cadre chacun de leurs activités. Donc les pêcheurs, les plaisanciers et tous les gens qui interviennent sur cette zone-là. Et ainsi, la conclusion de cette commission nautique locale, ça va être de dire, bah oui, d'accord, on peut faire le projet, mais de telle et telle manière, avec telle et telle précision, ou bien non, ce n'est pas possible, ça va faire prendre trop de danger à tel et tel corps de métier, donc on décale, ou voilà. Et nous, dans le projet de reconstitution du site archéologique de Bizeux, eh bien en fait, la commission locale nous a juste demandé de pouvoir positionner des bouées en surface pour matérialiser l'espace en surface.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.